VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro. Il est 11h en temps universel. Bienvenue. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson se rendra en Afrique la semaine prochaine pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le chef de la diplomatie américaine ira à N'Djamena au Tchad, à Djibouti, à Addis Abeba en Éthiopie, à Nairobi au Kenya et à Abuja au Nigeria du 6 au 13 mars. C'est ce qu'a annoncé hier la porte-parole du département d'État Heather Nauert. Il va rencontrer les dirigeants de chaque pays ainsi que les responsables de la Commission de l'Union africaine dont le siège est à Addis Abeba. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va organiser ce vendredi à Genève un débat urgent sur la situation humanitaire dans la Ghouta orientale en Syrie à la demande de la Grande-Bretagne. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole. Le débat va débuter à 15h, 14h GMT au Palais des Nations, le siège des Nations Unies à Genève. Un projet de résolution déposé par la délégation britannique sera discuté et soumis au vote des 47 pays actuellement représentés au Conseil pour un mandat de 3 ans. La Russie, alliée de la Syrie, n'y figure pas. Et la France et les États-Unis ne vont pas tolérer l'impunité en cas d'utilisation avérée d'armes chimiques en Syrie. C'est ce qu'a affirmé la présidence française dans un communiqué faisant état d'un entretien téléphonique ce vendredi entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Les deux hommes ont exigé l'application immédiate de la résolution 2401 votée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous suivez la Voix de l'Amérique. 4 travailleurs humanitaires nigériens ont été tués dans une attaque du groupe islamiste armé Boko Haram dans la ville de Ran, dans le nord-est du Nigeria. Parmi les victimes figurent notamment 2 employés de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, qui s'occupait de la gestion d'un camp de déplacés, un médecin travaillant comme consultant pour l'UNICEF, selon une porte-parole de l'ONU. Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat sur la 4e personne tuée, mais les travailleurs enlevés et portés disparus sont toutes 2 des femmes. L'attaque a eu lieu à l'extérieur du camp de déplacés de Ran, près d'une base de l'armée nigériane qui était en fait la cible visée par les djihadistes, selon la responsable onusienne. 4 policiers et un réserviste kenyan ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi dans le nord-est du Kenya, à la frontière avec la Somalie, par des membres présumés du groupe islamiste armé somalien Shebab. Selon Mohamed Saleh, le plus haut responsable sécuritaire du nord-est du Kenya, les assaillants ont attaqué de nuit 2 camps de police adjacents dans la localité de Lafe, au sein du comté de Mandera. C'est dans le nord-est du Kenya. Une conférence des pays donateurs se tiendra le 13 avril à Genève avec comme objectif de lever 1,37 milliard d'euros pour faire face aux nombreuses crises humanitaires en République démocratique du Congo. Anastasie Toudiech.
Pour Julien Arneis, coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC, l'objectif est de mobiliser plus d'attention, de financement, mais aussi de l'assistance technique pour la RD Congo pour 2018 et les années à venir, afin de faire face aux urgences et aux multiples crises qui touchent directement les populations. La somme que l'ONU espère lever en 2018 représente le double des fonds demandés en 2017. En janvier, l'ONU avait lancé un appel pour obtenir 1,68 milliard de dollars pour une aide humanitaire, estimant que la situation y a atteint un point de rupture. En décembre, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, l'UNICEF, avait indiqué qu'au moins 400 000 enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition sévère et pourraient mourir cette année s'ils ne sont pas assistés, rien que dans la région du Kasaï, théâtre d'affrontements qui ont fait des milliers de morts.
Au Congo-Brazzaville, les États-Unis ont remis 30 millions de dollars au Programme alimentaire mondial, le PAM, pour faire fonctionner les cantines scolaires du pays. Suite au repas servi à l'école, plusieurs enfants ont vu leurs résultats s'améliorer, nous dit notre correspondant à Brazzaville, Ngoula Ngoussou, qui s'est rendu dans l'une de ces cantines.
À l'école Jerry Pont, à une 30aine de kilomètres au nord de Brazzaville, le repas est servi tous les midis à 838 élèves. Grâce au Programme alimentaire mondial, la PAM, et d'autres partenaires comme le Japon et les États-Unis, la cantine scolaire de l'école fonctionne normalement à la grande satisfaction des élèves.
Le riz avec les haricots,
les sardines, les haricots, le riz, c'est tout.
D'autres élèves reconnaissent que les repas servis à l'école incitent plusieurs enfants à participer aux cours.
Mais parce qu'il y a les les autres élèves qui n'aiment pas fuir à l'école parce qu'on mange le riz ici. Il y a les autres qui viennent pour étudier. Il y a les autres qui viennent seulement pour manger. S'il n'y a pas la nourriture, il y a les autres qui fuient.
Le PAM a ciblé 54 000 élèves qui bénéficieront de repas en cette année scolaire. Il s'agit en tout de 470 écoles reparties dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Bouenza, de la Lekoumou et du Poul. Jeudi, le gouvernement américain a offert 30 millions de dollars pour permettre au PAM de pérenniser ses cantines scolaires. La directrice de l'école d'Iripan, Firmine Samba Onzomba, affirme que la qualité de la nourriture servie dans ces écoles est bonne, appelant ainsi les parents à contribuer au bon fonctionnement des cantines scolaires.
Depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, on a reçu vraiment de bonnes qualités, que ce soit des petits pois, les enfants vraiment adorent ça. Et la qualité du riz, c'était bon. Jusqu'en fin d'année, les enfants vont très bien manger. Nous avons une situation du bois. C'est les parents qui devraient fournir du bois de chauffe pour préparer les vivres. Mais souvent, quand on fait passer le message, bon, ils ne réagissent pas vraiment en totalité.
Malgré la crise financière et le manque de vivres, le gouvernement s'emploie à faire exister ce programme. Il compte sur l'apport des partenaires internationaux tels que l'admet ici Pierre Ngwala, directeur général de l'enseignement de base.
Ça n'a plus de plus attendu. C'est pourquoi vous me voyez me déplacer personnellement pour accompagner l'équipe du PAM. Autant nous avons manifesté notre joie de savoir que les États-Unis nous ont aidés, autant également nous manifestons notre joie pour d'autres partenaires qui nous ont donné, notamment le Japon, le Brésil, qui nous viennent en aide. Jusqu'au moment où il y a quelques embellis du point de vue de l'économie congolaise. Aujourd'hui, on a amélioré les choses, c'est parti de 60 à 70% de réussite. Pour nous donc, c'est quelque chose de sérieux, politiquement parlant, mais aussi pédagogiquement parlant.
Plusieurs autres cantines scolaires sont développées pour les enfants autochtones dans le nord du pays. Ngoïla Ngoussou, Brazzaville, VOA Afrique.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est fixé jeudi pour objectif à Dakar au Sénégal de doubler les échanges commerciaux entre la Turquie et le Sénégal. La veille à Nouakchott en Mauritanie, il avait annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel. Abdourahman Dia.
D'après le président Macky Sall, son homologue turc avait promis il y a 2 ans de porter le niveau des échanges avec le Sénégal à près de 250 millions de dollars. C'est maintenant chose faite et une nouvelle barre a été fixée à près de 400 milliards. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a multiplié le nombre d'ambassades turques sur le continent et les dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Il a visité la nouvelle cité de Jamnagyo, dont plusieurs entreprises turques ont participé à la construction. Mercredi soir à Nouakchott, Recep Tayyip Erdogan a signé plusieurs accords bilatéraux dans les domaines de la pêche, de l'agriculture, des hydrocarbures et des mines. Il a aussi annoncé une contribution de 5 millions de dollars pour la force du G5 Sahel. Monsieur Erdogan, qui s'est rendu en début de semaine en Algérie, doit achever sa tournée africaine aujourd'hui par une étape de quelques heures au Mali.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, l'explosion d'une voiture suicide contre un convoi des troupes étrangères aujourd'hui dans l'est de Kaboul a fait au moins un mort, un enfant et 12 blessés parmi les passants et riverains. L'explosion a laissé une chaussée jonchée de débris appartenant à la voiture suicide et au bâtiment riverain sévèrement endommagé par le souffle. Les témoins ont fait état d'une explosion de forte puissance. L'élection présidentielle au Venezuela, initialement prévue le 22 avril, a été reportée au jeudi 20 mai en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement de Nicolas Maduro et une partie de l'opposition. Nicolas Maduro brigue un second mandat face à 2 adversaires, Henri Falcon, ancien gouverneur de l'État de Lara et ex-allié d'Hugo Chavez, qui s'est porté candidat mardi, et le pasteur évangéliste Javier Bertucci, peu connu des électeurs. Ces deux principaux rivaux opposants, Leopold Lopez et Enrique Capriles, sont interdits, eux, de candidature. Et puis, pressé par l'Union européenne de dévoiler ses projets et de proposer une solution à l'épineuse question irlandaise, la première ministre britannique doit préciser aujourd'hui sa vision des futures relations du Royaume-Uni avec l'Union européenne après le Brexit. La chef du gouvernement défendra l'idée d'un accord le plus large et le plus approfondi possible, couvrant donc plus de secteurs avec davantage de coopération que n'importe quel accord de libre-échange dans le monde aujourd'hui, selon des extraits de son discours transmis par ses services. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes. Merci pour votre fidélité. Bon après-midi à vous et bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.